Joséphine Jam, la femme sans nom.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Voilà une enfant d'Internet et de la diaspora africaine installée dans la chambre d'un sol majeur et dans les abysses de ses multitudes d'inspirations. Étoile montante de la scène contemporaine, Joséphine Jam se dit habitée par une généalogie schizophrénique. Alors que vous pourrez découvrir son univers à partir du 15 avril à la Biennale de Venise, avec la fondation Las Art, où elle présentera Swell of Spaces, Houle d'espèces, en sol majeur, ose pousser la porte de son monde, connecté à l'afrofuturisme, la mythologie afrodescendante, la science et les cultures du web. Exposée dans le monde entier, cette plasticienne explore la profondeur des océans et l'étendue du cosmos, avec autour du cou un pendentif philosophique qui dit « Je suis plusieurs ». Alors est-ce que vous êtes prêts à décoller? Car Josepha est une météorite qui se mérite. Faire nos premiers pas sur RFI avec Joséphine Jam. Bonjour Joséphine.
Bonjour.
Dans un labo, celui des Britanniques Radiohead.
C'est ça.
Qu'est-ce qui teinte positivement à vos oreilles avec ce morceau Reconnor? Il y avait déjà une ambiance particulière dans le studio là.
Ouais. Je sais pas, c'est un peu la multitude d'harmoniques quoi, qui superposent dans ce morceau. Genre, du coup, un morceau qui est presque symphonique, mais aussi super simple. Et la répétition aussi, ça c'est quelque chose qui est assez fréquent dans les sons que j'écoute. Toujours des choses qui sont samplées. Et j'aime bien en fait me dire qu'on peut aussi sampler un orchestre symphonique. Je trouve ça assez beau et assez joli. Et du coup, c'est aussi une des bases un peu de mon travail. Cette question de sample et de succession de couches.
Voilà, donc je vous avais dit, Josepha, de faire comme à la maison. Hein, ben, vous êtes dans ma chambre de malade. c'est dit. Alors, je sais que tout commence par la musique pour vous, on va en reparler, mais d'abord un mot de ce que vous allez présenter à la Biennale de Venise 2024, qui aura d'ailleurs pour thème les étrangers. Est-ce que vous savez ce que vous allez y faire?
Ah là là, très très grande question, très grande thématique. Enfin, de même, la notion d'étranger, je sais pas de qui on parle, ça dépend certainement d'où on se place.
Eh oui.
Ça, c'est encore un autre sujet. Moi, je vais parler un peu du projet que je vais présenter justement à la Biennale de Venise, qui est une sorte d'histoire sans fin, de mythologie croisée et aussi de faits scientifiques. Du coup, les faits scientifiques sont vraiment basés sur la sédimentation du plancton. Du coup, c'est vraiment une histoire scientifique qui me fascine et qui porte beaucoup mon travail. Du coup, que les planctons meurent et ensuite se retrouvent au fond des océans et créent vraiment un lit calcaire, en fait, qui sont aussi les falaises. Par exemple, les falaises d'Etretat sont formées de sédimentation de plancton. C'est un peu une histoire qui s'imprime au fond de l'océan. Et donc, je travaille beaucoup aussi vraiment autour de la fluidité et aussi vraiment de quelles sont les mémoires qu'on retrouve à travers l'eau et spécifiquement l'océan. Donc là, je présente un énorme film d'animation et une très grosse installation immersive. Et ce film d'animation, croise un peu la mythologie malienne Dogon de Hama, du coup, qui a lancé un bout de terre dans l'espace et qui crée ensuite les étoiles. Du coup, c'est vraiment la genèse de l'histoire de la vie sous le prisme vraiment des Dogons du Mali.
Donc ça, c'est l'ADN, on va dire, du projet. Maintenant, comment ça va s'exprimer? Quel va être le langage visuel? Parce qu'évidemment, ouais, vous êtes plasticienne. Ça, c'est toute la question. Vous êtes dans la période du work in progress.
Donc en fait, c'est un énorme film d'animation qui va être projeté sur un mur d'écran LED qui fait 4 mètres par 16. Donc voilà, la narration et la voix de ce film sera portée par des sculptures. Du coup, c'est des sound jellyfish, c'est des méduses qui parlent et qui vont un peu conter l'histoire de ce périple incessant qui ne fait que recommencer. C'est vraiment une sorte d'histoire de la non-origine. C'est vrai que je n'ai pas cette obsession de l'origine, je suis vraiment obsédée par la non-origine des choses et comment elles se traversent et comment elles continuent, comment elles s'expandent, en fait, un peu comme l'univers qui est constamment en expansion. Et donc voilà, en fait, il va y avoir plein de sculptures dans lesquelles on sera invité à entrer dedans, invité à écouter, invité à dormir, invité à vibrer avec certaines de ces sculptures-là.
Dans le jardin d'Alice, une certaine Alice Coltrane qui fait partie de votre jardin extraordinaire, Josepha.
Tout à fait. C'est vrai que du coup, la spiritualité des sonorités d'Alice Coltrane a beaucoup accompagné mon travail. Et je trouve aussi assez important de pouvoir parler de spiritualité à travers une expression artistique et plastique. Ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'en école d'art, moi, quand j'ai fait ma formation, tout ce qui était la question de la spiritualité et de la religion était toujours très vite évacué. Mm-hmm. Et aussi la question de la communauté. Du coup, voilà, il y avait plein de gros mots apparemment qu'on n'avait pas le droit d'utiliser. Ça, c'est vrai que j'ai pour habitude, moi, j'enseigne aussi en école d'art, de demander à mes étudiants de me donner des références et aussi qu'elles soient musicales.
Alors je précise Alice Coltrane, hein, les oreilles peuvent teinter là aussi, harpiste américaine et épouse de J.C.
Exactement.
John Coltrane. C'est pour dire qu'effectivement, tout commence en fait dans votre parcours par la musique. Vous avez fait le conservatoire de Blanc-Mesnil, vous avez appris la clarinette, je crois,
ouais.
Puis vous avez fait le conservatoire de Pantin, près de Paris. Pourquoi ne pas avoir continué dans la musique ?
Là, je pense que si mes parents m'écoutent, vont m'en vouloir, mais je pense que c'est aussi une question de peur. Les parents ont souvent peur quand on décide de sortir un peu d'un chemin qui peut être tout tracé ou qui paraît plus simple à faire, je sais pas, faire des études de droit.
Et les Beaux-Arts, c'est mieux passé?
Alors les Beaux-Arts, ça s'est mieux passé quand je suis arrivée aux Beaux-Arts de Bourges, qui a vraiment été un peu des années d'expérimentation assez incroyables.
Si vous deviez faire votre autoportrait, Josepha Njam, rien qu'avec des mots évidemment, pour dire l'artiste que vous êtes.
Ah ouais, ça ce serait hyper compliqué. Hein. Je dirais que c'est... Souvent j'utilise cette métaphore un peu d'une sorte de vaisseau dans l'espace, mais qui est en continuel mouvement, du coup qui ne s'arrête jamais de bouger. Un peu une sorte de matière... impalpable, quoi, qu'on n'arrive pas forcément à saisir, mais qui se fixe à peu près nulle part. Donc ça peut être fatigant aussi.
corps, tout ça dans un même corps réuni. Race qui réussit, espèce peut avancer sans histoire écrite ni récit, donc sans passé. Inventeur cravaté, créateur gâté, créature ratée, sans grandeur à cravacher. Civilisateur, sensibilisé, par train de vie aisé, hectare à dévaliser. Martyr, dans la moiteur désalisé. Moteur, d'immense fortune réalisée. Amateur de belles lettres et de poésie. Frappeur de tambour avec fracas et frénésie. Grand penseur encensé, petite frappe assassin. Barouteur résistant, quémandeur assisté.
Blanc ingénieur, noir ingénu, au rang des seigneurs ou dépourvu de génie. Grand vainqueur à l'âme de gagneur ou fainéant et menteur. Race qui réussit, espèce peu avancée, sans histoire écrite, ni récit, donc sans passé. Cazet, dans votre en sol majeur, avec sa créature ratée. Parce que oui, il y a la musique dans votre parcours, mais il y a aussi la musique des mots, exact. Ceux de Cazet notamment.
Ouais, Cazet qui, comme je disais, j'ai aussi grandi au Blanc-Ménil. Voilà, c'est la ville dont Cazet vient. Enfin, vraiment, l'écriture de Cazet m'a toujours transportée et c'est une écriture qui est incisive et qui, vraiment, en mettant les mots comme ça ensemble, crée des mondes parallèles et aussi soigne certaines choses ou même des questions que je me suis beaucoup posées dans ma vie, cette question de la représentation du corps noir et toujours minimiser, en fait, ce corps noir dans l'espace. Et je trouve que Cazet, elle s'est imposée vraiment avec force et intelligence, en fait, à travers l'univers du rap français.
Sans concession.
Et sans concession, surtout. Et Cazet, ça a été un événement aussi assez marquant dans ma vie. Voilà, quand j'étais au Blanc-Ménil, il y avait ce super lieu culturel qui s'appelle le Forum, qui était un super lieu monté par cette ville communiste qu'est le Blanc-Ménil. C'était un espace de partage culturel et aussi un espace de production artistique et de résidence qui laissait la possibilité à des nouveaux formats d'émerger. Et en fait, moi, j'ai vu pour la première fois la formation de Cazet, du guitariste de Noir Désir, au Forum. Et ça a été vraiment un choc. Je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable.
C'est possible.
Ouais, c'est possible. C'est carrément possible.
Alors, vous vous êtes posé beaucoup de questions, Josepha. Et évidemment, il y avait un ressenti avec ces questions. Est-ce que vous avez pu vous sentir vous-même une créature ratée dans le regard de l'autre ?
Ouais, bien sûr. La créature ratée, même la figure du monstre, c'est quelque chose que j'utilise, même dans mon écriture de performance. La créature ratée, évidemment, en fait, quand on nous reflète, certaines normes, en fait, qui ont été construites, franchement, souvent je le dis aussi de manière absurde, parce que vraiment la question de l'absurdité, revient aussi beaucoup dans mon écriture. En fait, du coup, qui a décidé de ces normes, en fait, c'est totalement absurde. Un jour, on a décidé de se dire que, bon, apparemment, une société blanche permettrait de faire mieux fonctionner le monde de manière systémique. Donc, en fait, on est toujours la créature de quelqu'un d'autre. Après, moi, j'ai décidé aussi de monter ma communauté de créatures. Et j'ai un texte qui le dit, voilà, les monstres, c'est nous et moi. Et j'ai transporté en ma chair dégoulinante quelques révoltes en soubassement. Du coup, cette figure du monstre, en fait, toujours marginalisée, construit aussi d'autres mondes et des alternatives. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de faire.
Alors, je vous demandais des mots qui pourraient qualifier l'artiste que vous êtes. Vous parliez de vaisseau, un peu insaisissable, hein, comme ça. Je rajouterais tête chercheuse. En apesanteur, c'est un autre genre de vaisseau. On va essayer d'ailleurs de vous imaginer, Josepha Njam, lors d'une lecture performée que vous avez intitulée « I'm nameless ». Évidemment, on manque le visuel,
ouais.
Mais avec les mots, on peut faire des choses. D'abord, avant d'entendre un court extrait, j'aimerais que vous nous disiez un mot du dispositif de cette lecture.
Mes dispositifs de performance, lecture, enfin je sais jamais quel nom donner, lecture, mise en scène, sont en fait du coup le texte, ma voix qui lead pendant plusieurs minutes, les instruments aussi avec lesquels je joue, du coup j'ai beaucoup de stations de loop, et je sample ma voix, je sample des instruments de musique, du coup en fait c'est vraiment une forme presque de concert.
Performance de 15 minutes, nous on l'a chopé à 3 minutes 56.
Au-delà des mers, espace non aligné. Dissolution absolue de nos temps absurdes. Les étiquettes ont été effacées par cet acide chronophage. Elle, nous, vous, je. Aucun pronom ne pourra maintenant nous rattacher. Ah, vous ne vous y attendiez pas. Ne plus pouvoir nous placarder, disséquer de mot en mot. On a glissé à travers vos pores bien trop rangés. Rongé par ces cycles d'histoire susurrés. Nos mots, ce sont ces pierres métamorphiques, compressées par les couches d'histoire successives à débusquer. Alors on avance en loose day. Remplaçons nos drapeaux par ces avatars et hashtags impossibles à identifier. Mais t'es qui toi? Mais t'es qui toi? Elle, nous, vous, je. Je parle à ma place en mon corps résonnant. Je suis plusieurs. Je suis plusieurs. Je suis plusieurs.
Vous êtes tout seul sur RFI avec un extrait de I'm Nameless, signé Joséphane Jam, notre invité. Donc une performance tout en mots, vous êtes derrière votre ordinateur. Moi je parle avec des mots de vieux. Cette performance, elle est née comment?
En fait, j'en avais marre que les gens essaient de me définir à ma place, en fait. Et du coup, c'est venu de I am nameless, je décide de dire que j'ai pas de nom. Et en fait, si je décide d'avoir un nom, c'est moi qui vais me le donner. Voilà, les gens ont toujours besoin de mettre des personnes dans des boîtes hyper spécifiques. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, de manière structurelle, quoi, qui est vraiment né avec cet esprit du colon, quoi, qui a besoin, en fait, de classer les gens, en fait, même de les mettre dans des boîtes et de dire « toi, tu appartiens à telle catégorie ». Et du coup, j'invente, je m'hybride moi-même.
Vous êtes vraiment auteur, hein, en fait. J'avais oublié ça dans la présentation. Parce qu'évidemment, il y a du texte et il y a des images sur lesquelles je veux bien que vous rebondissiez quand vous parlez de terrain vague.
Ouais. Terrain vague, c'était venu d'un gros passage à Berlin et j'avais monté un projet avec une amie à moi qui est philosophe, chercheuse, théoricienne, enfin tout, une personne incroyable qui s'appelle Mawen Ayewesi. Et du coup, je parlais de la place de terrain vague dans les villes, en fait. Du coup, cet espace qui permet aussi un peu de s'abandonner et tout n'est pas construit, en fait. Ça laisse des possibilités, en fait, d'imaginer autre chose.
Et c'est péjoratif, en général. Vous l'employez autrement.
Exactement. Ouais, moi, je l'emploie vraiment comme un espace de possible, en fait. C'est presque, en fait, un endroit qui va contre le rythme effréné d'une ville. Les terrains vagues, maintenant, on les trouve plutôt dans des villes de province.
Frères et sœurs déglingués.
Ouais. Bah, cette image, elle recouvre le fait qu'on soit abîmé. Aussi, c'est quand je dis on, je parle de personnes noires, de personnes racisées, de personnes qui sont toujours marginalisées. Et c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a une fatigue en fait, qui est incessante, mais on fait aussi en fait, avec cette douleur, avec les mots et aussi le fait qu'on soit abîmé.
Cette phrase que j'adore et qui nous concerne tellement, je suis plusieurs.
Ouais. Et je suis plusieurs, du coup, là, je vais citer aussi Sean Hart, qui est un de mes collaborateurs et qui est un super artiste, qui est aussi vraiment l'instigateur de cette phrase « je suis plusieurs ». Ouais, c'est vraiment cette schizophrénie qu'il y a dans ma tête. On m'a demandé d'être un modèle, en fait, je me suis construit contre un modèle.
C'est quoi ce modèle?
Enfin, vraiment, moi, pour revenir aussi à l'origine de l'histoire, c'est que j'ai grandi jusqu'à mes 6 ans dans l'Est de la France, et le modèle, en fait, c'était certainement pas moi, c'était pas une petite fille noire, et en fait, le modèle était plutôt celui d'une petite fille blanche qui doit convenir à certaines conventions très normées, ou des attentes même, en fait, d'une histoire étatique, et je me suis rendu compte aussi que cette histoire, c'est la mienne, mais aussi, il y a plein d'histoires qui ne sont pas racontées, donc en fait, moi, j'ai toutes ces histoires qui m'ont habité et dont on ne m'a pas parlé. Et après, j'ai cherché, je me suis rendu compte, en fait, voilà, moi, je suis plein de personnages de ces histoires-là qu'on ne me raconte pas. Donc, je suis plusieurs. Ouais.
À un moment donné de cette performance, I'm nameless, donc en anglais, hein, vous avez choisi ça. Il y a une phrase qui dit This is how I feel. Et là, il y a une projection de tableau qu'on laissera un peu mystérieuse. Comme ça, il faut aller voir cette performance. Mais c'est juste aussi pour dire que vous basculez beaucoup dans votre pensée et dans vos références en anglais. Ça vous vient souvent d'outre-Atlantique. À partir de quand vous vous êtes éloigné, on va dire, du narratif franco-français?
Ouais, c'est une bonne question. À partir de quand? Est-ce que je me dirais, c'est à partir du moment où j'ai eu accès à la radio? Parce que du coup, mes parents, très tôt, nous ont offert des radios à mon frère et moi. Je pense que c'est à partir de là. Je me dirais, franchement, 8-9 ans, c'est vrai qu'on a eu plein de références aussi, R&B, en fait, américain. Alia, P. Diddy, Destiny's Child, etc. Enfin, c'était vraiment, moi, je pense, des références de ma génération des années 90.
Et donc, la pensée suit.
Et la pensée suit, en fait. Mais c'est vrai que la pensée a suivi. Je pense qu'il y a eu deux grandes références hyper importantes dans ma vie. Ça a été la découverte du film Downtown 81. C'est un film qui met en scène Jean-Michel Basquiat dans les rues de New York.
L'artiste plasticien, américain d'origine haïtienne.
Tout à fait. On avait accès à, du coup, déjà Jean-Michel Basquiat qui joue de la clarinette. Je me suis dit, waouh, c'est un signe. C'est un signe. En plus, il fait de la peinture, c'est un artiste noir. Et en fait, aussi, il y avait un accès dans ce film à la scène musicale underground de New York. Incroyable. Enfin, vraiment.
L'accès à impossible.
Exactement.
haine comme noir c'est noir.
Le possible est très en sol majeur grâce à vous, Josepha, puisqu'on est avec Sonra. Sommes-nous aussi dans l'atelier, la chambre, la conscience de notre invité, Josepha Njam? Je crois qu'on est dans tout ça à la fois. Je sais que vos installations, performances, à l'intérieur de ça, vous vous référez à des phénomènes biologiques, scientifiques. Vous êtes même arrivé de travailler, je crois, avec des astrophysiciens.
Ouais.
Alors, de quelle manière, vous, la plasticienne, vous avez travaillé la matière noire?
Ah bah justement, ça a été un super sujet à développer. J'en ai fait une multitude d'analogies après cette résidence. Donc ouais, j'ai été invitée en résidence au Canada, au Snow Lab, du coup, qui est un des laboratoires les plus enfouis au monde, qui est à 2 km sous terre. Du coup, à travailler avec des astrophysiciens qui travaillent sur la matière noire et les neutrinos, du coup, qui sont des particules à faible interaction, qui permettraient un peu de quantifier la matière noire. Et je me suis rendu compte aussi que la physique quantique, c'était quelque chose qui était totalement fou. Et en fait, c'est une philosophie des mathématiques qui permet d'ouvrir le monde et aussi d'ouvrir nos pensées.
Et qui rejoint la philosophie politique qui vous intéresse, vous, puisque là, on est dans le monde noir aussi.
Exactement. Et justement, enfin, il y a vraiment des théories de physique quantique qui pourraient être appliquées de manière sociale. Des choses assez bêtes en fait, qui seraient même du fait que l'univers soit constamment en expansion. Comment on fait pour quantifier l'univers en fait, ce qui est presque une impossibilité. Là où l'humain sur Terre est constamment en train de vouloir quantifier les choses, on a des astrophysiciens qui essaient de comprendre aussi un peu comment il régit ou quelles sont les dynamiques en fait de l'univers. Et cette question de la matière noire, je l'ai aussi beaucoup affiliée à la blackness, qui se différencie aussi de la négritude. Après, je pense vraiment c'est des courants philosophiques qui se sont rejoints.
Alors, comment définir ce blackness, justement, pour la politologue Audrey Célestine?
Ouais.
Elle le définit comme une construction d'une identité noire entre l'Hexagone, la Martinique et les États-Unis.
Exactement, du coup, qui est une construction qui est vraiment afro-diasporique. Et la blackness, c'est aussi un état d'être au monde, d'être noir. La blackness aussi, pour moi, réunit aussi parfois peut-être un état de mélancolie, de mélasse, de mélanine. Et du coup, j'ai un film qui s'appelle Mélasse de Saturne. Du coup, qu'est-ce que c'est la mélasse? Et du coup, je dis que c'est vraiment la mélasse qui a vu naître la multitude de nos horizons. Du coup, vraiment cette matière noire qui n'est pas du tout identifiable. Et du coup, c'est vrai que j'en fais toute une histoire ensuite de cette question de la matière noire dans l'univers. Et en fait, cet accès à l'espace a beaucoup aussi été utilisé par Sun Ra, que je trouve incroyable en fait.
Grand artiste là qu'on écoutait à l'instant dans The Lady with the Golden Stocking.
Exactement, et qui était un artiste incroyablement fou, qui a ouvert des univers vraiment que je ne saurais même nommer en fait. Je pense qu'ils sont encore en expansion pour le dire, parce que moi je le cite maintenant en 2024 et je pense qu'il continuera de vivre avec d'autres personnes. Mais Sun Ra, c'est vrai que cette question de l'espace, qu'est-ce que c'est pour un homme noir en fait?
Alors je vais vous arrêter là justement, Josepha, parce que la question évidemment qu'on se pose quand on regarde votre travail, c'est comment fonctionne la narration. Et peut-être qu'on peut répondre à cette question en vous suivant de façon radiophonique dans une déambulation. Dans l'une de vos performances, je crois que c'est l'une des dernières que vous avez données à Londres, A Constellation of Blackness, avec l'accent, que des titres anglais, hein, j'ai rien dit. Comme on n'a pas la captation, on a quand même une boîte à outils dans laquelle vous avez bien voulu nous transmettre quelques motifs de cette performance.
Ouais.
Donc, il y a de la musique.
Bien sûr.
Il y a du texte.
Ouais.
En français. Donc, je vous donne les clés pendant quelques minutes dans Sol majeur. Je vous laisse avec Théo Raison, notre réalisateur. C'est vous qui orchestrait cette petite déambulation.
Ouais, super. Bah, du coup, ouais, c'était cette dernière performance, Constellation of Blackness, qui réunit plein de personnages qui parlent justement de cette notion d'être noir au monde. Donc, on a par exemple Nina Simone.
I think what you're trying to ask is why am I so insistent upon giving out to them that blackness, that black power, that black pushing them to identify with black culture. I think that's what you're asking. It's I have no choice over it. In the first place, to me, we are the most beautiful creatures in the whole world, black people.
Donc là, c'était Nina Simone sur la question de la blackness. Je trouve vraiment super incroyable comment elle prononce ça. Et donc on a ensuite une petite intervention de Eartha Kitt aussi dans cette performance.
A man comes into my life and I have to compromise. You must think about that one again. A man comes into my life and you have to compromise for what? For what? For what? A relationship is a relationship that has to be earned, not to compromise for. I fall in love with myself, and I want someone to share it with me. I want someone to share me with me.
Je trouve cet extrait hyper fort de Eartha Kitt qui parle de cette notion de compromis. En fait, qu'est-ce que c'est le compromis ? Et du coup, cette femme noire qui dit que non, je ne veux pas de compromis.
Avec un homme qui rentrerait dans ma vie, parce que c'est la question que le journaliste lui a posée.
Exactement, du coup, qu'est-ce que c'est le compromis avec un homme ? Et du coup, elle explique que non, c'est pas parce qu'un homme entre dans ma vie que je vais absolument devoir faire des compromis. Au contraire, peut-être que cet homme devra aussi me suivre dans ce que je décide de faire et comment je décide de mener ma vie.
C'est pas n'importe quelle figure hein, dans le cinéma américain, hollywoodien, hein, puisque Orson Welles disait d'elle que c'était la femme la plus excitante, je crois, du cinéma. Il faut aussi dire un petit point de sa biographie, c'est l'enfant d'un viol, Eartha Kitt, entre une afro-américaine Cherokee et un blanc.
Et je pense que ces personnes sont animées par l'histoire de leur vie. Et Eartha Kitt, évidemment, une femme noire dans l'histoire du cinéma, d'autant plus américain, qui dit que je ne ferai pas de compromis pour un homme ou pour d'autres hommes. Ça pose aussi les bases d'une méthodologie, je ne sais pas, peut-être de chemin à suivre.
Et alors après ?
Après, on a une super intervention de Saul Williams, de Black Amethyst, qui est vraiment un film incroyable. Enfin voilà, cette diatribe de Saul Williams, je pense qu'elle m'a toujours transcendé.
I stand on the corner of the block slinging amethyst rocks, drinking 40s of Mother Earth's private nectar stock, dodging cops, cause 5-0 be the 666, and I need a fix of that purple rain, the type of shit that drives membranes insane. Oh yeah, I'm in the fast lane, snorting candy yams.
Dans l'extrait de ce film, je le trouve incroyable parce qu'en fait, c'est vraiment dans une cour de prison. Et voilà, il commence en fait ce speech et voilà, il y a tous les détenus qui commencent à le regarder en se disant mais c'est qui ce fou en fait, presque on va pas l'écouter. Et au final, il prêche et en fait, il arrive à convaincre tout le monde quoi. Enfin, les gars, regardez-vous, enfin vraiment, nous on est cette communauté d'hommes noirs en prison aussi, qu'est-ce que ça raconte de l'histoire de notre pays ? Je trouve ça incroyable en fait d'en arriver à voilà la figure du fou à celle du prêcheur, mais en fait parfois quelle est la limite en fait aussi entre ces choses.
Émanciper, libérer les esprits au sein d'une prison.
Exactement. Et vraiment tout ce qui relie un peu ces extraits, c'est cette notion vraiment de communauté, pas forcément toujours parler de manière individuelle. Et je trouve que c'est vraiment des paroles qui donnent en fait envie de lutter.
Et puis alors il y a Sun Ra.
Et Sun Ra aussi, pareil avec sa poésie mystique qui est folle, mais qui parle en fait d'autres mondes. C'est un extrait du film Space is the Place de Sun Ra. Et c'est un extrait hyper important dans le film, parce qu'en fait, voilà, Sun Ra arrive dans une sorte de MJC. Du coup, tout le monde le prend à la rigolade. Et en fait, c'est un peu comme Saul Williams dans l'extrait précédent. Personne au début le prend trop au sérieux. Dis ça, mais comment t'es habillé? Enfin, c'est quoi cette sorte de clown interstellaire? Et là, du coup, Sun Ra commence un peu à calmer tout le monde et à dire, mais en fait, assez jeune afro-américain, mais est-ce que vous savez qui vous êtes? Et là, il leur dit, est-ce que vous vous rendez compte que dans cette société, vous êtes un mythe? Il dit, mais en fait, vous n'êtes pas réel. Vous n'êtes pas réel pour cette société. Vous n'êtes qu'un mythe. Votre existence n'a aucune valeur. Si vous voulez construire votre réalité, ça va passer par la lutte. Mais du coup, ce que propose aussi Sun Ra, c'est voilà, une réalité fictionnée et fictionnelle qui est celle de partir dans l'espace. Du coup, un homme noir dans l'espace.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, Josepha, vous vous faites votre place dans cette constellation du monde noir.
Ouais, et j'écris. Ouais, c'est vrai que j'écris, et d'ailleurs pas qu'en anglais. J'écris en français, en fait. Je n'écris pas en anglais. Ça aussi, c'est important.
How cute you are. Et donc, dans cette installation performance, vous signez un texte. Vous allez nous en dire un petit extrait.
Exactement. Je signe un texte, du coup, Constellation of Blackness, et je vais vous lire, en fait, la version française. Je suis une multitude de nuances de noir. J'aimerais ne pas avoir besoin de la lumière pour prouver mon existence, mon absence diffractée, antimatière, hypothétique, antithèse, anti-tout, je ne me présente plus. Je m'en fous. Car je suis une multitude de nuances de noir. Je serai l'absence de lumière, obscure, même en temps d'été, je serai noir. It's my blackness or my darkness. Black star, black, 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 blackness. Car au fond, je parlerai toujours de la même chose, à travers ma viande qui fait vibrer mes cordes, à travers ma chair mot de passe qui fait vibrer un code impossible à déchiffrer. Antimatière, antithèse, anti-tout, je m'en contrefous. Car je suis une multitude de nuances de noir.
Ma viande.
Ouais.
C'est l'image que je retiens. Vous disiez tout à l'heure, Josepha, pour un sol majeur, que vous étiez, vous et votre famille.
Ouais.
Je cherchais le mot parce que j'allais garder le mot communauté pour la suite de la question. Vous êtes en train de monter votre communauté de créatures.
Ouais.
Vous avez parlé de lutte.
Bien sûr.
Vous êtes aussi en train de travailler, d'emmener, on a l'impression, la représentation du monde noir ailleurs. Peut-être pas dans l'espace, un peu sur Terre aussi. Hein.
Ouais.
Mais en tout cas, je vous sens en mission.
Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose qui revient assez souvent du fait que je sois en mission, tout à fait. Je reviens aussi un peu juste, vraiment brièvement sur le terme de viande que j'ai vraiment repris à Sonny Laboutancy, qui est un auteur que j'admire.
Auteur congolais.
Auteur congolais, ouais, vraiment auteur, metteur en scène, comédien, même philosophe, poète, tout. C'était un homme complet. Et donc oui, vraiment, pour revenir à cette notion de communauté ou de famille, moi aussi, que j'essaie de créer, en fait, au fur et à mesure dans ma pratique, c'est très récent. J'ai vraiment développé plein de nouvelles créatures, en fait, dans mon travail, totalement hybrides de végétaux, de plantes, de statues. C'est vraiment des nouvelles représentations. Et ça, j'aimerais bien aussi un peu participer à la création des nouvelles représentations, mettre un peu ça au panthéon. Comme toute sculpture, en fait, qui représente certaines divinités, dont Mamiwata, par exemple, qui est une divinité qui revient de manière incessante dans mon travail, je me suis dit pourquoi ne pas créer aussi de nouvelles représentations de Mamiwata.
Non-genrée.
Non-genrée, non-binaire, et je trouve ça hyper intéressant. Et ça, je l'ai aussi beaucoup fait avec l'aide de l'intelligence artificielle, qui est aussi là une partie de ma pratique, en fait, qui est la 3D, le numérique, le digital, c'est très très présent.
Vous y allez, vous n'avez pas peur?
Non, c'est vrai que non, j'aime bien tout tester plein de choses.
Toute chercheuse. Alors, dans les références qu'on a un petit peu posées sur la table dans Sol majeur, ce sont presque toutes des références afro-américaines, en tout cas qui viennent du monde noir. Est-ce que ça veut dire que vous évitez soigneusement aussi des références qui pourraient venir du monde blanc ?
Non, pas du tout. J'en ai plein. J'en ai plein. Et c'est vrai que dans ma tête, je suis en train de réfléchir en même temps. Ça, c'est vrai que c'est une réalité je me suis beaucoup occupée de créer un carnet de références de personnes noires. En fait, c'était trop important pour moi.
Parce qu'en fait, vous voyez le danger qui peut guetter aussi, c'est-à-dire voilà, vous dénoncez à juste titre, de façon absolument légitime, une suprématie blanche. Est-ce que en le dénonçant, vous n'êtes pas en train de créer une suprématie noire?
Non, ça, j'y crois pas. Je pense qu'on ne sera pas assez de notre vivant pour pouvoir voir ce basculement, sincèrement. En tout cas, enfin, je pense que l'histoire, voilà, de personnes noires qui ont écrit l'histoire, sont tellement peu visibles. Le chemin est trop long. En fait, je ne sais même pas si on y arrivera moi personnellement, de mon vivant.
Mais est-ce que ce serait un vœu?
Non, c'est pas un vœu, clairement pas. Enfin, c'est pas du tout ma manière de faire. Enfin, moi, je sais, je suis issue d'une famille métisse. Ma mère est blanche, franco-allemande. Mon père est camerounais. Donc, non, c'est pas un vœu. Je ne parlerai jamais d'une grande utopie qui dirait je veux que tout le monde puisse être égal. Enfin, j'y crois pas parce qu'en fait, on part de si loin que pour ça, en fait, il faut d'abord qu'on lutte. Moi, je projette des mondes futurs, en fait, qui me permettent aussi de lutter au présent. Et en fait, j'ai besoin de cette projection de futurible. Vraiment, souvent, j'explique ce terme de futur possible pour pouvoir aussi avoir la capacité de lutter au présent.
Et vous pensez que cette lutte se fait plutôt du côté de l'art que du côté de la politique ?
Elle se fait partout de manière simultanée et je pense que l'art est aussi politique. De par les formes qu'on crée et des personnes à qui on s'adresse et du discours aussi qu'on amène dans des institutions.
G.
Come. Gramophone.
Un peu d'enfance soul qui vous donne un sourire magnifique sur votre belle frimousse pleine de taches de rousseur. Josepha, que vous rappelle Otis Redding ?
Ça me rappelle mes parents. Vraiment, c'est une musique avec laquelle j'ai grandi.
Alors, vous êtes né, on ne l'a pas dit, à Metz, en Moselle, en 92. Et quand on vous interroge un peu sur cette forme de politisation qui est la vôtre, vous dites « mes parents m'ont mis là-dedans ».
Ouais. Ouais, mes parents m'ont mis là-dedans, et évidemment, parce qu'en fait, j'ai grandi aussi dans une grande schizophrénie.
C'est quoi cette grande schizophrénie?
En fait, d'avoir une mère blanche, un père noir, de grandir jusqu'à mes 6 ans dans l'Est de la France, en fait, qui était un territoire où j'ai aussi vraiment beaucoup subi le racisme. Mais en fait, aussi pour revenir sur la question précédente, en fait, c'est pas cette question de remplacer toutes les références par des références noires. En fait, c'est aussi que le problème a été totalement systémique. C'est pas qu'une question de dire tu es blanc, tu as un problème. C'est pas du tout ça le problème. C'est en fait de manière systémique comment tu reproduis aussi des schémas d'oppression. Je me suis battue contre, et après spécifiquement aussi des personnes blanches qui m'ont vraiment opprimée. Et ça a été depuis que je suis toute petite. J'ai dû justifier ma place de manière constante.
Donc vous êtes en réparation?
Ouais, c'est un process aussi de réparation et qui se fait à plusieurs, qui se fait avec une sorte de famille élargie, de famille choisie, de créatures, de monstres, d'amis, de frères et sœurs.
Alors la petite question en sol majeur, c'est quel lien vous avez, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, on a réussi cet exploit, quel lien vous entretenez avec le Cameroun? À cette question, on va se tourner peut-être du côté de l'histoire avec un grand H. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce n'est pas une histoire exclusivement camerounaise, c'est aussi une histoire française. Qui était, d'un mot, Josepha, Félix Roland Moumier?
Félix Roland Moumier était un des leaders de l'UPC, du coup l'Union des Populations du Cameroun. Et du coup, l'UPC a été vraiment un mouvement politique considéré comme dissident par la France.
Bah, l'indépendance, il luttait pour son indépendance.
Exactement, et qui a permis l'indépendance du Cameroun. Et ça fait aussi partie de l'histoire de ma famille, en fait. Voilà, enfin, moi, mon grand-père était affilié à l'UPC, mon grand-père aussi mort, en fait, par la faute de l'armée coloniale française. C'est une histoire de ma famille, c'est aussi une histoire du silence. Tous ces leaders de l'UPC qui ont été tués par l'État français, on n'en entend pas parler.
Alors, Félix Roland Moumier, je ne sais plus si vous l'avez dit, mais il a pris la succession après Oumniobé de l'UPC. Il a été assassiné. On va écouter sa veuve, Marthe Ekemeyong Moumier, qui s'exprime là à Genève en 1960. C'est juste quelques jours après l'assassinat de son mari.
Si vous permettez, je vais passer à Madame Moumier, qui est devant nous maintenant, et lui demander si elle était au courant de toutes les activités politiques de son mari.
Évidemment, non seulement que M. Moumier était mon mari, mais aussi il était mon compagnon de lutte, parce que moi-même je suis militante de ce parti.
Où était votre domicile en ce moment, Madame Moumier?
À Conakry.
C'est-à-dire en Guinée?
En Guinée.
Pour quelles raisons habitiez-vous la Guinée et non pas le Cameroun? Pour des raisons qui touchent à un exil politique, peut-être?
En 1957, nous avons été exilés par le gouvernement britannique, après la dissolution de notre parti. Ici, on a commencé à vivre en Égypte, on a demandé l'asile politique. Et quand la Guinée a eu son indépendance, il nous a accordé aussi le droit d'asile.
Et vous avez appris la mort de votre mari dans quelles circonstances?
Le 1er novembre, c'est d'abord la radio Brazzaville qui a annoncé que mon mari était gravement malade, hospitalisé dans un hôpital cantonal à Genève par suite d'un empoisonnement.
Bon, je voulais vous demander, madame, vous m'excuserez de prolonger, mais cette affaire est d'une telle importance que nous devons franchir certaines limites tout de même. On pense généralement, depuis que votre mari est mort, que lui seul n'était pas visé et que d'autres personnes le sont probablement aussi. Avez-vous le sentiment qu'une menace pèse sur vous?
Ce n'est pas une menace qui commence aujourd'hui. Moi-même, je suis militante de ce parti il y a 10 ans. J'ai échappé à beaucoup d'attentats ensemble avec mon mari, où on a failli être tué. Partout où nous passons, nous avons les ennemis qui ont leurs espions un peu partout, ou leurs agents qui organisent tout le temps des complots contre nous.
Sur RFI, pour un sol majeur, terrible témoignage de Marthe Moumier. Et j'ai regardé ça, elle a été elle-même assassinée en 2009 à l'âge de 77 ans. Et vous, vous souhaitiez, Josepha, entendre cette archive. Et je me disais, en fait, parce que vous utilisez beaucoup d'archives hein, dans vos performances et vos installations, cette obsession de l'archive, elle est sans doute proportionnelle au silence d'État et au silence dans les familles.
Exactement, et c'est pour ça que Martekemeyong Moumies, c'est un personnage qui revient beaucoup dans mes images, dans mes photomontages, dans les films. Et cette interview est incroyable, en fait, que de parler en fait de ces notions de survie et de lutte. Après, je trouve ça aussi intéressant comment ça dessine aussi certaines notions de panafricanisme, en fait, de voir ces déplacements et ces notions d'entraide, en fait. Mais effectivement, c'est une histoire du silence d'État, et c'est aussi une histoire, je pense, douloureuse et qui crée des silences dans les familles. Et donc, en fait, moi, de ces silences, c'est vrai que j'en ai beaucoup tiré des films, j'ai fait des recherches pour un de mes films, Dislocation. J'ai fait des interviews avec mes oncles, tantes, avec mon père. Et c'est justement de comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, de me raconter aussi un peu à travers ces archives vivantes. Donnez-moi une partie de l'histoire pour qu'on puisse aussi la conserver et la partager.
Mais alors, justement, c'est votre enquête, en fait, vous, ouais. Hein, c'est Dislocation. Et on va en écouter un extrait. Le début a un petit côté 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais. Ça, c'est pour les amoureux de Kubrick. Vous êtes d'accord?
C'est vrai.
Comment vous le décririez, ce début?
C'est une sorte de... Il y a des météorites qui viennent face caméra, mais des fossiles aussi, et plein de petits bouts d'archives. Du coup, des téléphones avec des archives, des cartes SD, en fait, qui comporteraient certaines mémoires, en fait, qu'on a oubliées et qu'on doit peut-être préserver. Des coquillages, etc.
Je m'en remets aux pierres et à l'eau. Afin de comprendre la généalogie schizophrénique qui m'habite. On m'a dit que les monstres, c'est nous et moi. Alors voici les paroles de celles qui n'auront plus jamais besoin de ramper à quatre pattes pour que vous les entendiez. Car notre chant est désormais porté par les eaux, ultrasons bien adaptés.
Dans Dislocation, qui doit s'écouter et se voir, la voix qui parle, c'est la vôtre, hein. Josepha, et là, elle est en train de parler dans une sorte de grotte cosmique, et elle est habillée d'une drôle de façon.
Ouais. À nouveau, là, c'est vraiment des sortes de paysages qui s'entrecroisent, donc en fait, c'est une grotte qui est perchée dans l'espace. Et un personnage aussi, je pense que c'est une des plus grandes références à Sun Ra en termes de costume aussi. Ouais. C'est une sorte de costume intergalactique, de masque de corail doré. Et mon visage recouvert vraiment d'un masque corail doré. Et du coup, voilà, il y a ce personnage qui s'énonce sur la musique qu'a créée Aosan, petite dédicace, et qui raconte voilà, cette histoire du silence dans une grotte. Et la grotte, à nouveau, c'est vraiment pour moi la métaphore du maquis. En fait, c'est aussi pour ça que dans mon travail, il y a ces questions toujours d'endroit, en sous-bassement. Qu'est-ce qu'on a en commun, comment on s'organise aussi en dehors des lumières. Donc c'est souvent les grottes, c'est le fond des abysses, enfin, c'est vraiment le fond de l'océan, et c'est aussi les forêts. Et en fait, parce que l'histoire du maquis, c'est aussi une histoire de forêt, c'est une histoire de végétaux, de lutte à travers la forêt, c'est une histoire de lutte dans des grottes, d'organisation.
Alors je me disais en vous écoutant qu'on pourrait mettre votre visage en effigie sur le mur de la Journée internationale de la femme.
Non,
non surtout pas, parce que c'était hier. Justement, ça vous inspire quoi, cette journée?
Sincèrement, ça ne m'inspire pas grand-chose. Je sais pas, il y a des choses, ça ne sert à rien de les commémorer de manière si fragmentée, en fait, si on ne le fait pas au quotidien.
Un jour dans l'année.
C'est ça. Juste réfléchissez-y tous les jours, comportez-vous correctement tous les jours, plutôt que de devoir célébrer une seule journée et après on se dit « Ah c'est bon, je peux revenir un peu à toutes mes conneries, à mon moi pas déconstruit ». Donc voilà.
Alors on pourrait malgré tout faire un clin d'œil à cette journée, avec les mots d'une certaine bell hooks, je ne suis pas sûre qu'elle soit plus très dans la ligne.
Ouais, enfin cette notion de sororité. Parle justement voilà, de ces systèmes d'oppression. Et effectivement, nous, on n'est pas du tout toutes les mêmes personnes, on n'est pas toutes les mêmes femmes, mais en fait, on peut aussi faire front. Et justement, la dernière partie, je crois, du texte, où elle dit « Les femmes n'ont pas besoin d'éradiquer leurs différences pour se sentir solidaires les unes des autres. Nous n'avons pas besoin d'être toutes victimes d'une même oppression pour toutes nous battre contre l'oppression. Nous n'avons pas besoin de haïr le masculin pour nous unir, tant est riche le trésor d'expériences, de cultures et d'idées que nous pouvons partager entre nous. Nous pouvons être des sœurs unies par des intérêts et des croyances partagées, unies dans notre appréciation de la diversité, unie dans la solidarité politique. »
Et ça, je pense que ça conclut bien aussi toute votre démarche.
Exactement.
Merci beaucoup, Josepha Njam. C'était un bonheur en sol majeur de voyager avec vous et dans nous-mêmes.
Merci.
La musique, encore une, attend quand même sur les platines dans sol majeur. Alors, ce sera avec, j'avoue que je ne sais pas, ESG ?
ESG, ouais.
My Love For You ?
Exactement. Exactement.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Josepha Njam, de la pierre, du silence, de la sororité, du Cameroun et des plantes. Tout ça est à retrouver en podcast sur Pure Radio. Caroline Filliette, Théo Raison, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain du côté du Pakistan avec le journaliste Taha Siddiqui et dans un instant votre journal, suivi de La Marche du Monde.